le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes Émile et les détectives par Erich Kästner, E-R-I-C-H, plus loin K-A-T-R-E-M-A, S-T-N-E-R. Édition Stock, STOCK, première édition 1931, nouvelle édition revue et corrigée 1988. Traduction de Madame L. Faisan-Maury, F-A-I-S-A-N-S, trait d'union Maury, M-A-U-R-Y. Je te présente tout d'abord les principaux personnages de l'histoire et les lieux où elle se passe. Premièrement, Émile en personne. Voici d'abord Émile lui-même, dans son costume bleu du dimanche. Il ne le met pas volontiers et seulement lorsqu'il y est obligé. Les costumes bleus attrapent si facilement les taches. Alors, la mère d'Émile humecte sa brosse à habits, elle saisit le gamin entre ses genoux et elle dit tout en le brossant « Petit, petit, tu sais bien cependant que je ne peux pas t'en acheter un autre. » C'est toujours à ce moment-là, quand il est trop tard, qu'Émile songe combien sa mère travaille pour assurer leur nourriture et pour lui permettre d'aller à l'école. Deuxièmement, Madame Tischbein, coiffeuse, la maman d'Émile. Tischbein, T-I-S-C-H-B-E-I-N. À la mort de son père, Monsieur Tischbein, le quincailler, Émile avait 5 ans. Et depuis ce jour, la mère d'Émile est coiffeuse. Elle ondule, elle lave la tête des demoiselles et des dames du quartier. D'autre part, elle fait sa cuisine, son ménage, et elle ne prend personne pour l'aider à sa lessive. Elle aime beaucoup Émile et elle est heureuse de pouvoir travailler et gagner de l'argent. Parfois, elle chante gaiement, mais quelquefois, elle est souffrante. Alors, Émile s'occupe de la cuisine. Il fait des œufs sur le plat. Il sait aussi faire griller un beefsteak avec des croûtons dorés et des oignons. Troisièmement, un compartiment de chemin de fer assez important. Ce train est le train qui va à Berlin, B-E-R-L-I-N. J'ai oublié de te dire que l'histoire se passe en Allemagne, vers 1930. Émile habite une petite ville qui s'appelle Neustadt, N-E-U-S-T-A-D-T. Et, comme tu vas le voir, la suite de l'histoire se passe à Berlin, la capitale de l'Allemagne, une très grande ville. Comme vous l'apprendrez dès le premier chapitre, il va se passer dans ce compartiment probablement des choses extraordinaires. Les compartiments de chemin de fer sont vraiment des endroits singuliers. Des gens qui ne se connaissent pas s'y empilent pendant quelques heures et bientôt se confient les uns aux autres comme s'ils se connaissaient de longue date. Parfois c'est très agréable et gentil. Parfois ça l'est moins. Sait-on jamais à qui on a affaire? Quatrièmement, l'homme au chapeau melon. Personne ne le connaît. En principe, on doit faire crédit à tout être humain. Mais ici, je vous prierai d'être extrêmement prudent. La prudence, comme on le dit si bien, est mère de la caisse de porcelaine. L'homme est bon, a-t-on dit. C'est peut-être vrai. Cependant, il ne faut pas trop faciliter les choses à cet homme bon, car il arrive soudain alors qu'il devient mauvais. Cinquièmement, Pony Bibi. P-O-N-Y, plus loin, B-I-B-I. Cette petite fille, sur la petite bicyclette, C'est la cousine qui habite à Berlin. Pony Bibi est une ravissante enfant. Pony Bibi, bien sûr, n'est pas du tout son nom. Ce n'est qu'un surnom à cause de son drôle de petit chapeau. Sa mère et Madame Tischbein, la sœur d'Émile, sont sœurs. Sixièmement, l'hôtel de la place Nollendorf. Nollendorf. La place Nollendorf est à Berlin. Et sur la place Nollendorf se trouve, si je ne me trompe, l'hôtel où se rencontrent, sans l'avoir prévu, plusieurs personnages de l'histoire. Cet hôtel est peut-être bien place Wittenberg, W-I-T-T-E-N-B-E-R-G, peut-être aussi place Färbelin, F-E-H-R-B-E-2-L-I-N. Je m'explique. Bien sûr, je sais parfaitement où il est. Mais le patron est venu me trouver quand il a entendu dire que j'écrivais cette histoire et il m'a demandé de ne pas spécifier le nom de la place. Car, de toute évidence, ce ne sera pas une recommandation pour mon hôtel quand on le saura fréquenté par des gens pareils. J'en tombais d'accord avec lui et il s'en alla. Septièmement, le petit gars à la trompe de bicyclette. Il s'appelle Gustave. Il est premier en gymnastique. Qu'a-t-il encore ? Un assez bon cœur et une trompe de bicyclette. Tous les enfants du quartier le connaissent et le traitent comme s'il était leur chef. Quand il apparaît dans une cour et qu'il appuie sur sa trompe de toutes ses forces, les gamins lâchent tout, descendent l'escalier comme des fous et lui demandent ce qu'il veut. En général, il choisit deux de ses camarades pour le football et ils vont sur le terrain de jeu. Quelquefois, la trompe rend d'autres services, comme ce fut le cas, par exemple, dans l'histoire d'Émile. Huitièmement, la petite succursale de la banque. Dans tous les quartiers, les grandes banques ont leur succursale. Quand on a de l'argent, on peut y acheter des valeurs, et quand on a un compte ouvert, on peut y chercher de l'argent. On peut aussi encaisser des chèques s'ils n'ont pas été émis sans provision. Tu demanderas à ton papa ce que ça veut dire. Il y entre aussi parfois des employés qui demandent à changer 10 marques contre 100 pièces de type Pfennig pour que leur patron ait de la petite monnaie à rendre dans leur caisse. Je te rappelle que l'histoire se passe en Allemagne, que la monnaie allemande est le mark, qui se divise en 100 pfennig, comme le franc se divise en 100 centimes. À l'époque, un mark représentait à peu près 10 francs d'aujourd'hui. Donc, quand tu vois 10 marks, ça veut dire 100 francs d'aujourd'hui, et 10 pfennig, ça veut dire 100 centimes ou 1 franc d'aujourd'hui. Celui qui a des dollars, des francs ou des livres, peut aussi venir les échanger contre de l'argent allemand. Parfois, des gens entrent même la nuit dans les banques, bien que personne ne soit là pour les servir. C'est justement pour cela qu'ils se servent eux-mêmes. Tu devines comment on les appelle, ces gens-là. Neuvièmement, la grand-mère d'Émile. C'est la grand-mère la plus gaie que je connaisse. Avec ça, elle n'a eu toute sa vie que des soucis. Mais à certains êtres, la belle humeur ne coûte aucune peine. À d'autres, au contraire, elle demande un effort sérieux. Autrefois, cette grand-mère vivait avec les parents d'Émile. À la mort du quincaillier Tischbein, elle s'installa à Berlin chez son autre fille, car la mère d'Émile ne pouvait pas gagner suffisamment pour nourrir 3 personnes. La vieille dame vivait donc à Berlin, et chacune de ses lettres se terminait ainsi: ma santé est bonne, j'espère qu'il en est de même chez vous. Dixièmement, la salle de composition d'un grand journal. Tout ce qui se passe est dans le journal, il suffit que ça soit un peu extraordinaire. Quand un veau naît avec 4 pattes, Naturellement, ça n'intéresse personne, sauf le fermier. Mais s'il en a 5 ou même 6, et ça arrive, il faut que les grandes personnes lisent ça à leur petit déjeuner. Que M. Müller, M-U-T-R-E-M-A-2-L-E-R, le laitier, se conduise comme un brave homme, personne ne tient à le savoir. Mais si M. Müller met de l'eau dans le lait qu'il vend, on le mettra dans le journal. Après quoi, il fera ce qu'il voudra. Êtes-vous quelquefois passé le soir devant l'immeuble d'un grand journal? Vous entendez sonner, taper, grincer, les murs tremblent. Et maintenant, nous allons enfin commencer l'histoire. Chapitre 1er, Émile aide sa mère. « Là, dit Madame Tischbein, et maintenant apporte-moi la cruche d'eau chaude. » Elle-même prit une autre cruche et un petit pot contenant de la mousse de savon et passa de la cuisine dans la chambre. Émile saisit la cruche et suivit sa mère. Dans la chambre, une femme était assise, la tête penchée au-dessus d'une cuvette blanche. Ses cheveux, emmêlés comme un écheveau de laine, pendaient devant son visage. La mère d'Émile répandit le savon liquide sur les cheveux blonds et frotta la tête inconnue qui se mit à mousser. « Est-ce trop chaud ? » demanda-t-elle. « Non, ça va, » répondit la tête. « Ah, mais c'est Madame Wirth, W-I-R-T-H, la boulangère. Bonjour, » dit Émile en posant sa cruche sous la toilette. « Tu en as de la chance, Émile. Il paraît que tu vas à Berlin, » dit Madame Wirth. « Il n'en avait pas grande envie, c'est vrai, » dit la mère en frottant vigoureusement la tête de la boulangère. « Mais le gamin n'a pas besoin de rester ici à flâner tout le temps des vacances. Il ne connaît pas Berlin, B-E-R-L-I-N, hein, c'est la capitale de l'Allemagne, je te rappelle. Et ma sœur Martha nous a déjà souvent invités. Martha, M-A-R-T-H-A. Son mari gagne bien sa vie. Il est employé des postes. Je ne peux pas accompagner Émile, naturellement. J'ai beaucoup de travail les veilles de jours fériés. D'ailleurs, il est assez grand et il n'a qu'à faire bien attention en route. Ma mère, sa grand-mère, ira le prendre à la gare de Friedrichstrasse. F-R-I-D-R-I-C-H-S-T-R-A-2-S-E. Elle l'attendra devant le kiosque de fleurs. « Oh !» dit Madame Wirth, « Berlin va sûrement lui plaire beaucoup. C'est très amusant pour les enfants. Nous y sommes allés il y a 18 mois avec la société du jeu de quilles. Quel trafic! Et dans certaines rues, on y voit aussi clair la nuit qu'en plein jour. Et ces autos! Beaucoup de marques étrangères? Demanda Émile. Comment veux-tu que je le sache? Dit Madame Wirth, et elle éternua. Ah! La mousse de savon lui était entrée dans le nez. Allons, va t'habiller, ordonna la mère. Je t'ai préparé ton costume neuf dans ta chambre. « Habille-toi de façon que nous puissions déjeuner aussitôt que j'aurai fini d'onduler Madame Wirth. »« Quelle chemise dois-je mettre ?» demanda Émile. « Tout est préparé sur le lit. Tire bien tes chaussettes et lave-toi d'abord soigneusement. Et mets les lacets neufs à tes chaussures. Allez, va !»« Bof !» fit Émile et il s'en alla. Après le départ de Madame Wirth, bien frisée et satisfaite de l'image qu'elle avait aperçue d'elle dans la glace, la mère entra dans la chambre et trouva Émile qui allait et venait d'un air malheureux. « Pourrais-tu me dire, » dit Émile, « qui a inventé les vêtements neufs ?»« Non, je regrette, » répondit sa mère. « Mais pourquoi veux-tu le savoir ? Donne-moi l'adresse de ce gars-là et j'irai le tuer. »« Ah, mon pauvre garçon, il y a des enfants qui sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais de vêtements neufs. Chacun a ses soucis, tu sais. Pendant que j'y pense, « ce soir, demande à tante Martha de te donner un cintre à vêtements et mets ton costume avec soin dessus. Mais avant, il faudra le brosser, n'oublie pas. Et demain, tu pourras mettre ton pullover, ta tenue de brigand. Quoi encore ? Ta valise est prête. Les fleurs pour la tante sont empaquetées. Je te donnerai plus tard l'argent de la grand-mère. Et maintenant, déjeunons. Arrivez, jeune homme. » Madame Tischbein le prit par le bras et le conduisit à la cuisine. Le déjeuner se composait d'un plat de macaroni au jambon et au fromage. Émile dévorait, engloutissait. De temps à autre, toutefois, il s'arrêtait et jetait un coup d'œil sur sa mère, comme s'il eût craint que ce bel appétit ne la vexât juste avant son départ.
Tu m'enverras tout de suite une carte, Émile. J'en ai mis dans ta valise, sur le dessus.
Entendu, dit Émile. Et il ramassa, en tâchant de ne pas le faire voir, un morceau de macaroni tombé sur ses genoux. Heureusement, sa mère ne remarqua rien.
Tu leur diras bien le bonjour à tous pour moi. Et fais attention surtout. Berlin, c'est une grande ville, une capitale. Ce n'est pas comme chez nous, à Neustadt, qui est une petite ville. Neustadt, N-E-U-S-T-A-D-T. Ça veut dire ville neuve.
Le dimanche, tu iras avec l'oncle Robert au musée de l'empereur Frédéric. Et tiens-toi convenablement, pour qu'on ne puisse pas dire qu'ici nous ne savons pas ce qui se fait.
Promis, dit Émile.
Après le déjeuner, ils revinrent tous les deux dans la chambre. La mère tira de l'armoire un coffret de métal et se mit à compter de l'argent. Tout à coup, elle secoua la tête et recommença à compter. Puis elle demanda :
Qui donc est venu hier après-midi, hein ?
Mademoiselle Thomas, dit Émile. Ou Madame Hombourg, H-O-M-B-U-R-G.
Oui, mais mon compte n'est pas exact.
Elle réfléchit, alla chercher le petit carnet sur lequel elle inscrivait ses recettes, calcula, et dit enfin, il me manque 8 marques, à peu près 80 francs.
L'employé du gaz est passé ce matin, dit Émile.
Ah, c'est vrai. Alors c'est juste, malheureusement. Elle sifflota gaiement pour écarter son souci et sortit du coffret 3 billets. «
Là, Émile, voici 140 marques,
à peu près 1400 francs.
Un billet de 100 marques et deux billets de 20 marques. Tu donneras à la grand-mère 120 marques et tu lui diras de ne pas m'en vouloir si je ne lui ai rien envoyé la dernière fois. J'étais trop juste. C'est pour ça que tu lui apportes toi-même l'argent aujourd'hui et même un peu plus que le compte. Et embrasse-la bien fort, tu as compris. Les 20 marques qui restent, tu pourras les garder. Tu prendras ton billet de retour qui coûtera à peu près 10 marques. Et avec le surplus, tu paieras tes consommations quand vous irez en promenade. Il est prudent d'ailleurs d'avoir toujours dans sa poche quelques marques dont on n'a pas besoin pour parer à toute éventualité. Certainement. Et voici l'enveloppe qui contenait la lettre de Tante Martha. Je mets l'argent dedans. Fais bien attention de ne pas me la perdre. Où vas-tu la mettre ?
Elle glissa les billets dans l'enveloppe, la plia en deux et la tendit à Émile. Il réfléchit un instant, puis la mit tout au fond de sa poche intérieure droite. Pour plus de tranquillité, il s'assura en la tâtant de l'extérieur que l'enveloppe était bien en place et dit d'un ton convaincu. Là, il n'y a pas de danger qu'elle se sauve. Surtout, ne raconte à personne en route que tu as de l'argent.
Voyons, maman. Émile était vraiment vexé. Le supposer capable d'une bêtise pareille.
Madame Tischbein mit ensuite un peu d'argent dans son propre porte-monnaie, puis elle replaça le coffret dans l'armoire et relut rapidement la lettre qu'elle avait reçue de sa sœur. Cette lettre indiquait les heures de départ et d'arrivée du train qu'Émile devait prendre.
Beaucoup d'entre vous songeront sans doute qu'une somme de 140 marks, 1400 francs, ne nécessite vraiment pas une conversation aussi approfondie que celle de Madame Tischbein et d'Émile. Et cela n'est en effet pas nécessaire pour celui qui gagne 2000 ou 20 000 ou même 100 000 marks par mois.
Mais pour le cas où vous ne le sauriez pas, la plupart des gens gagnent moins, beaucoup moins que ça. Et celui qui gagne par semaine 35 marks, que cela vous plaise ou non, considère comme une grosse somme les 140 marks qu'il a pu économiser. Pour d'innombrables hommes, 100 marks représentent autant qu'un million, et pour ainsi dire, ils écrivent 100 marques avec 6 zéros. Et dans leurs rêves, ils ne parviennent même pas à imaginer ce que représente 1 million en réalité. Émile n'avait plus son père. Sa mère avait beaucoup à faire. Elle ondulait ses clientes, lavait des têtes blondes et des têtes brunes, et travaillait infatigablement pour subvenir à sa nourriture et à celle de son fils, et pour pouvoir payer la note du gaz, le charbon, le loyer, les vêtements, les livres et l'école. Mais quelquefois, elle était souffrante et obligée de rester couchée. Le docteur venait et prescrivait des médicaments. Émile, alors, préparait des compresses chaudes, et il faisait la cuisine pour sa mère et pour lui. Et même pendant qu'elle dormait, il passait sur le plancher la serpillière humide, afin qu'elle ne dise pas « Il faut que je me lève, tout va à l'abandon chez nous. » Allez-vous me comprendre et ne pas sourire si je vous dis maintenant qu'Émile était un garçon modèle? Voyez-vous, il aimait beaucoup sa mère et il serait mort de honte s'il était resté à ne rien faire tandis qu'elle travaillait, faisait ses comptes et recommençait à travailler. Pouvait-il bâcler ses devoirs ou les copier sur ceux de Richard Naumann, N-A-U-M-A-2-N? Pouvait-il faire l'école buissonnière avec les autres? Il voyait quel mal elle se donnait pour ne le laisser manquer de rien et pour lui assurer tout ce que ses camarades de l'école professionnelle, lycée professionnel plutôt, recevaient ou possédaient. Alors pouvait-il la tromper ou lui donner du souci? Émile était donc un garçon modèle. Mais il n'appartenait pas à ce genre de garçons modèles qui ne le sont que par lâcheté ou par intérêt, parce qu'ils sont vieux avant l'âge. C'était un garçon modèle parce qu'il voulait en être un. Il s'était promis cela, comme on se promet par exemple de ne plus aller au cinéma ou de ne plus manger de bonbons. Il s'était donc promis d'être un garçon modèle, et souvent cela lui paraissait très difficile. Mais lorsqu'à Pâques, il rentrait à la maison et pouvait dire « Maman, voici mes notes, je suis encore le premier », il était bien content. Il aimait les compliments qu'on lui faisait à l'école et partout, non pas pour la joie qu'il en avait lui-même, mais pour la joie que sa mère en éprouvait. Il était fier de pouvoir lui rendre un peu, à sa manière, ce qu'elle faisait pour lui toute sa vie, sans se lasser. « Hop !» dit la mère, « il faut aller à la gare. Il est déjà 1h15 et le train part un peu avant 2h. »« Alors, en route, Madame Tischbein, » répondit Émile. « Mais sachez bien que je porterai moi-même ma valise. » Chapitre 2. Le gendarme reste muet. En sortant de la maison, la mère dit « Si le tramway à cheval passe, nous le prendrons jusqu'à la gare. » Y en a-t-il parmi vous qui sache comment est fait un tramway à cheval? Et même un tramway. Un tramway, c'est une espèce de petit train électrique qui roule sur des rails au milieu de la rue. Le tramway à cheval roule sur des rails comme un vrai tramway bien raisonnable et il a des voitures toutes pareilles aux autres tramways. Mais il est attelé d'un vieux canasson, un vieux cheval, au lieu d'avoir un moteur électrique. Aux yeux d'Émile et de ses camarades, c'était tout simplement un scandale. Il rêvait de tramways électriques à 2 étages, 5 phares devant, 2 derrière, mais le maire de Neustadt trouvait que pour venir à bout de 5 km de rail, la force d'un cheval vivant était bien suffisante. Jusqu'à présent, il n'était donc pas question de tramway électrique, et le cocher n'avait pas à s'inquiéter le moins du monde de manivelle ou de levier. Dans sa main gauche, il tenait les guides, dans sa main droite, son fouet, et « Hucocotte !» Et si quelqu'un dans le tramway voulait descendre devant le numéro 12 de la rue de la mairie, il n'avait tout simplement qu'à cogner sur la vitre. Monsieur Schaffner, S-C-H-A-2-F-N-E-R, le cocher, faisait « Oh !» Et le voyageur était déposé à sa porte. La vraie halte ne se trouvait peut-être bien que devant le numéro 30 ou le numéro 46, mais cela était tout à fait égal au tramway de la compagnie. Il avait tout son temps. Le cheval avait le temps. Le cocher avait le temps. Les habitants de Neustadt avaient le temps. Et si une fois par hasard quelqu'un était vraiment pressé, il allait à pied. Madame Tischbein et son fils descendirent place de la gare. Tandis qu'Émile retirait son bagage de la plateforme, une grosse voix gronda derrière eux.
« Alors, on s'en va donc en Suisse ?»
C'était le gendarme Jeschke. J-E-S-C-H-K-E. La mère répondit « Non, mon garçon va passer une semaine à Berlin chez des parents. » Émile sentit sa vie s'obscurcir. Il eut presque le vertige, car sa conscience était très chargée. Dernièrement, après la leçon de gymnastique dans le pré de la rivière, une douzaine d'élèves du lycée professionnel avaient été posés sur le crâne chauve de la statue du grand-duc, de ce Charles à la figure de travers, comme on l'appelait, un vieux chapeau de feu. Et Émile, parce qu'il était bon en dessin, avait été désigné par les autres pour peindre sur le visage du grand-duc un nez rouge et une moustache noire comme de l'encre. Et tandis qu'il s'absorbait dans son travail de peintre, le gendarme Jeschke était apparu à l'autre bout de la place. Avec la rapidité de l'éclair, tous s'étaient enfuis, mais on pouvait craindre d'avoir été reconnus. Cependant, le gendarme ne dit rien, souhaita bon voyage à Émile, demanda à sa mère des nouvelles de sa santé et s'enquit de l'état des affaires. Malgré tout, Émile n'était pas très rassuré. Et tandis qu'il transportait sa valise à la gare à travers la place, il se sentait bien prêt de défaillir. À chaque instant, il s'attendait à entendre Jeschke lui crier « Émile Tischbein, je t'arrête ! Haut les mains !» Mais il n'arriva rien de pareil. Peut-être le gendarme attendrait-il le retour d'Émile. Sa mère alla prendre un billet au guichet. Un billet de troisième classe, naturellement. Autrefois, il y avait trois classes dans les trains. Et un billet de quai pour elle. Puis ils se rendirent sur le quai numéro 1, Neustadt à 4 quais, s'il vous plaît, et attendirent le train de Berlin. Il n'y avait plus que quelques minutes à attendre.
Ne perds rien, mon garçon, et ne t'assieds pas sur le bouquet. Demande à quelqu'un de mettre ta valise dans le filet, et sois bien poli, surtout, je t'en prie.
Je mettrai bien moi-même la valise dans le filet, je suis pas en sucre, voyons.
Bon, et ne te trompe pas pour descendre. Tu arrives à Berlin à 18h17, à la gare de Friedrichstrasse. Surtout, ne descends pas avant, ni à la gare du Zoo, ni à une autre station.
Mais n'aie pas peur, ma petite maman.
Et avant tout, tâche de ne pas être aussi insolent avec les autres qu'avec ta mère. Ne jette pas le papier par terre quand tu mangeras tes saucisses. Et ne perds pas l'argent.
Émile, épouvanté, ouvrit son veston et explora sa poche droite. Il poussa un soupir de soulagement. Et déclara, on est paré. Prenant le bras de sa mère, il se mit à arpenter le quai avec elle. Et toi, petite mère, ne te fatigue pas trop et ne tombe pas malade. Tu n'aurais personne pour te soigner. Mais je prendrai immédiatement l'express pour rentrer à la maison. Écris-moi à toi aussi. Et tu sais, je ne reste qu'une semaine, au plus. Il serrait sa mère tendrement contre lui et elle lui donna un baiser sur le nez. Enfin, avec beaucoup de mugissements et de sifflements, le train de voyageurs pour Berlin arriva et s'arrêta. Émile embrassa encore une fois sa mère, puis il grimpa dans un compartiment avec sa valise. Sa mère lui tendit les fleurs et son paquet de provisions et lui demanda s'il avait une place. Il hocha la tête. « C'est bien entendu, tu descends à la gare de Friedrichstrasse. » Il hocha la tête. « Et ta grand-mère t'attend devant le kiosque de la fleuriste. » Il hocha la tête. « Et tiens-toi comme il faut, polisson. » Il hocha la tête. « Sois gentil avec Pony Bibi, ta cousine. Vous n'allez pas vous reconnaître. » Il hocha la tête. « Et écris-moi. » « Toi aussi, maman. » Ils auraient vraisemblablement continué ainsi pendant des heures sans l'horaire des chemins de fer. Le conducteur, avec son petit drapeau rouge, cria « En voiture, messieurs les voyageurs !» Les portes claquèrent. Clac, clac. Clac, clac, clac. La locomotive s'ébranla. Le train s'éloigna. La mère agita longtemps encore son mouchoir. Puis elle retourna lentement et rentra à la maison. et comme elle tenait son mouchoir à la main, elle pleura un petit peu. Pas bien longtemps cependant, car à la maison l'attendait déjà Madame Augustin, la bouchère, qui voulait un shampoing. Fin de la première face de la première cassette, page 41, Émile et les détectives par Erich Kästner.